Depuis le début, l'électrocardiogramme n'a pas bougé.
Dominique Vallière.
Ça devient pas mal une condition sine qua non.
S'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois.
Yasmine Abdel-Fadel.
Ce serait tellement catastrophique.
La rencontre.
S'il va, il va se faire soincer.
C'est difficile de se battre contre des chocs qui arrivent dans votre amal.
Quand l'idéologie rencontre la réalité, c'est souvent la réalité qui gagne.
C'est pas comme ça qu'on tisse des liens avec les institutions.
Puis le temps file rapidement.
La rencontre Vallière-Abdel-Fadel.
Dominique, Yasmine, bonjour à vous deux.
Allô, allô.
Bonjour.
Alors, Yasmine, sondage ce matin qui montre que la CAQ est toujours très haute dans les intentions de vote. Le Parti libéral fait du surplace. Québec solidaire, le Parti québécois, vont chercher quelques petits points ici et là contre le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Es-tu surprise de ce sondage-là ce matin?
Honnêtement, aucune surprise. On n'a pas rien. Il y a rien qu'on apprend de nouveau. Québec solidaire qui fait du surplace, le Parti libéral du Québec qui est encore à 9 % chez les francophones, la crise des CHSLD qui ne semble pas avoir égratigné le taux de satisfaction du gouvernement Legault. À part voir que Éric Duhaime est en baisse dans la région de Québec, rien de nouveau dans le sondage de Léger ce matin.
Dominique.
Moi, si je suis à la CAQ ce matin, je suis quand même content parce que la semaine passée, ça a probablement été la pire semaine depuis le début du mandat pour le gouvernement. Donc, ce sondage-là a été fait pendant cette pire semaine-là et on est quand même assez élevé, là, à 46%. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles pour eux, il y a des bonnes nouvelles pour QS et des bonnes nouvelles pour le PQ, parce que pour QS, pour le PQ, ça dit on est capable de faire bouger l'aiguille. Donc, si on trouve des dossiers sur lesquels on est crédible, sur lesquels on est capable de faire mal au gouvernement, c'est possible que ça bouge. Évidemment, je vois pas de parti passer de 13 à 46 dans la prochaine année, mais ça veut dire que la CAQ n'est pas intouchable. Puis comme Yasmine l'a dit, pour le PLQ, c'est un peu fâchant parce que après avoir eu le congrès de la semaine dernière, beaucoup de visibilité autour de Mme Anglade, d'avoir présenté le projet ECO, donc la nationalisation de l'hydrogène vert, on voit que là, l'aiguille, elle, refuse obstinément de bouger. Alors probablement qu'il va falloir continuer d'essayer autre chose.
Il y a quand même quelque chose d'hallucinant quand on regarde le potentiel de croissance. Tu sais, la CAQ, par exemple, il y a 56 % des électeurs qui pourraient voter pour la CAQ, alors qu'il y en a seulement 46 qui disent qu'ils pourraient voter pour eux. Si on regarde les partis d'opposition, on est à peu près à 55 % 57 % pour le PQ, pour Québec solidaire, 59 % de gens qui ne veulent pas. C'est impossible qu'ils votent pour ces partis-là. Alors, ça donne pas beaucoup de marge de manœuvre pour ces partis-là au cours des prochains mois pour aller faire d'importants portant à gain. Là. Si on regarde leur potentiel de croissance aux trois partis d'opposition, il n'y en a pas beaucoup, là, Yasmine.
Peut-être pas, mais moi, j'aurais aimé savoir la démographie des indécis. Est-ce que c'est principalement des franco? Est-ce que c'est principalement des jeunes? Est-ce qu'ils sont en région ou ils sont à Montréal? Parce que des non-franco qui ne voteraient jamais pour le PQ ou pour Québec solidaire, ben, il n'y a rien de nouveau là-dedans. On le sait. Puis je pense pas que Québec solidaire puis le PQ sont après ce vote-là. Par contre, si c'est un vote franco de région, ben là, c'est une sonnette pas d'alarme, mais disons, c'est un défi de plus pour le PQ et Québec solidaire parce qu'il va falloir redoubler d'efforts pour aller chercher ce vote qui est hyper important pour la représentativité en chambre. Un vote en région vaut plus qu'un vote à Montréal. Là, peu importe comment on le dit, c'est ça la vérité. C'est qu'un vote en région peut te ramener un siège, alors qu'un vote à Montréal, d'habitude, c'est relativement stable les couleurs, finalement, des différentes circonscriptions à Montréal. Mais ça, c'est à peu près, on est à quoi, 12 mois avant, pas moins que 12 mois, là, qu'est-ce que je dis là, à 10 mois avant les prochaines élections. Dis-moi, avant les prochaines élections, ben c'est encore une éternité en politique. C'est encore beaucoup de temps en politique. Tu sais, il reste la prochaine session parlementaire qui va être très importante, qui va être la dernière session parlementaire, dois-je le rappeler. Donc, les derniers projets de loi avec lesquels le gouvernement va vouloir marquer les esprits. Et ça va être aussi les dernières chances pour les partis d'opposition de démontrer qu'ils ont des idées, qu'ils sont capables de faire face au gouvernement Legault et de démontrer ses défauts. S'ils réussissent pas à le faire au courant de la session parlementaire prochaine, ça va être peine perdue parce que l'été, c'est pas la période durant laquelle les électeurs sont les plus réceptifs aux partis politiques.
Mmh. Puis Dominique, si on regarde un peu les chiffres en détail, les dossiers où le gouvernement a plus de difficultés, là, donc il y a à peu près 50% ou plus de Québécois, de répondants dans ce sondage-là, qui sont contre la gestion, par exemple, du gouvernement, du réseau de la santé, la gestion des CHSLD, conditions de vie des aînés, puis accès à un médecin de famille. On considère là, 60-50% que le gouvernement ne fait pas un bon travail dans ce dossier-là.
Ouais, puis donc c'est damnant pour les partis d'opposition parce que ça se transforme pas donc dans une grogne
généralisée. Ça se traduit pas dans les intentions de vote.
Ça se traduit pas dans les exactement, mais c'est intéressant de commencer à mesurer le potentiel de croissance parce que ça va être un indicateur supplémentaire, je pense, avant la prochaine campagne électorale, où est-ce qu'on va pouvoir se dire ben ce parti-là est stable dans les sondages, mais s'il y a personne de plus que ceux qui ont déjà l'intention de voter pour eux, qui ont envie de voter pour eux, je veux dire on voit la tendance, c'est un indicateur de tendance supplémentaire. Yasmine parlait de la prochaine session parlementaire. Il reste des gros morceaux. Je pense notamment au projet de loi 96. Puis un sondage comme aujourd'hui, ça fait en sorte, je suis certain que les stratèges des différents partis d'opposition se disent, bon, est-ce que c'est bon pour nous que de l'étirer? Est-ce qu'on veut prendre le plus de temps possible pour empêcher un gain majeur pour la coalition Avenir Québec? Est-ce que inversement, ça nous tente de dire, bon, mais garde, on le met sur la voie
on
rapide parce
tous,
que
ouais,
on se colle tous, puis on veut pas qu'il fasse son spectacle avec ce projet de loi-là pendant des semaines et des mois. Donc, probablement qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'éplucher ce matin et qui vont regarder la liste des projets de loi déposés, la liste des projets de loi à venir, puis qui vont se dire, OK, peut-être que celui-là, on met le pied sur l'accélérateur, puis peut-être que celui-là, on met le pied sur le frein.
Parlons de ce qui s'est passé à Ottawa hier. Je sais pas pour vous, mais il y en a plusieurs qui ont été surpris de voir les conservateurs. Donc, il y a un député conservateur qui s'est levé pour demander le consentement unanime de la Chambre des communes pour que l'adoption du projet de loi qui vise à interdire les thérapies de conversion passe directement toutes les étapes de la Chambre des communes pour se rendre au Sénat. Donc, les conservateurs qui avaient mis des bâtons dans les roues, dans la moitié du caucus qui avait voté contre la dernière mouture du projet de loi, ont décidé de changer à 180 degrés leur vision par rapport à ça. Yasmine, qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne le sais pas. J'ai pas compris. On se rappelle que juste avant l'été, il y avait eu toute une division dans le caucus conservateur à propos de ces thérapies de conversion. C'est la même thérapie de conversion qui avait été interdite par Québec, par exemple, selon un projet de loi qu'avait déposé Simon-Jolin Barrette, comme une lettre à la poste. Il n'y a personne qui parlait de ça parce que personne ne pensait que c'était correct d'avoir des thérapies de conversion. Puis on passe à autre chose.
C'était pas controversé.
Pas chez les conservateurs. C'était pas controversé, mais pas chez les conservateurs. Chez les conservateurs, c'était quelque chose de très qui a divisé le caucus. Certains députés ne voulaient pas voter contre cette interdiction. Ça fait beaucoup de
ouais,
négatifs,
c'est bon.
Mais c'est contre ce projet de loi. C'est ça. Et donc, finalement, hier, on dirait qu'ils ne voulaient pas retomber dans le même débat qui a eu lieu juste avant l'été. Ils ont décidé de nous surprendre et de manière unanime demander à ce que le projet de loi aille directement au Sénat. Et c'est une bonne nouvelle, s'ils finissent par voir la lumière. On dira pas non, franchement, tu sais.
Dominique.
Ben, on a été dur avec les conservateurs ces derniers jours, puis là, je pense qu'il faut donc que le balancier revienne puis saluer ce bon coup-là. Moi, ce que ça dit des choses sur l'externe. Je pense que les conservateurs se disent, ben là, ça commence à faire beaucoup de groupes qu'on fâche, là. Est-ce qu'on peut arrêter d'en fâcher un ou deux pendant un certain temps? Donc ça, il y a cette prise en considération-là, à mon sens, et aussi à l'interne, parce que ça veut dire que Erin O'Toole a été capable de dire, écoutez, là, à son caucus, là, voici ce qu'il faut faire, c'est la chose à faire politiquement. Il n'existe pas 56 solutions. Puis moi, j'ai pas envie qu'on passe un certain nombre de semaines à débattre de la dynamique interne du Parti conservateur. Donc, s'il a été capable d'imposer ça, parce que au début de la journée, ce qui circulait, c'est que ça allait être un vote libre pour les députés, alors que finalement, c'est pas ça qui s'est produit du tout. Donc, ça veut dire que probablement Erin O'Toole se sent plus de légitimité pour avoir son caucus, pour avoir une blague sur son caucus, qu'il y a une semaine ou qu'il y a un mois.
Yasmine.
Ouais, mais Dominique, là, moi, je suis persuadée que ça n'a pas juste été une petite discussion de caucus de hey guys, ça serait bien fun qu'on vote tout à l'unanimité contre le projet de loi puis qu'on accélère ça. Il a dû mettre quelque chose de gros sur la table auprès des députés qui sont contre ce projet de loi. Il a dû faire une négociation avec eux où il a dû reculer sur quelque chose. On le sait pas encore, mais ça va pas tarder pour qu'on le sache, parce que c'est pas vrai qu'ils ont laissé passer ce morceau-là gratuitement. Est-ce que juste le fait de pouvoir négocier ça, ça lui donne une certaine légitimité au caucus conservateur? Absolument. Mais encore faut-il voir s'il va maintenir son côté du bargain puis leur donner ce qu'il leur a promis, parce que c'est sûr qu'il leur a promis une position sur quelque chose qui est plus importante.
Ouais, on se souvient quand même il y avait 62 députés qui avaient voté contre, oui, l'ancienne mouture, Dominique.
Ben oui, absolument. Puis moi, j'ai dit hier sur Twitter à la blague, je me demande quelle est la corrélation entre voter contre ce projet-là et avoir un billet anti-vaccin COVID. Je sais pas s'il y avait beaucoup de gens qui se retrouvaient dans les deux catégories. On peut pas le savoir, mais mon pif me disait que probablement qu'il y en avait quelques-uns. Oui.
Oh, popo! Dominique, Yasmine, à demain.
À demain.
À demain.